Le mot travail vient du latin tripalium, qui désigne un instrument de torture. En latin, le verbe tripaliare signifie torturer ou tourmenter. Donc, cette étymologie bien connue nous rappelle le caractère pénible du travail, cette activité qui est généralement opposée à des activités plus plaisantes comme le jeu ou le divertissement auquel on se consacre durant son temps libre ou ses loisirs. Le travail peut désigner en général toute activité qui demande un effort physique ou intellectuel et qui a pour but la satisfaction d'un besoin. En ce sens, on pourrait penser que les animaux travaillent, tout comme les humains. Toutefois, chez l'homme, cette activité consiste plus précisément à transformer l'environnement naturel et prend une forme à la fois réfléchie, technique et socialement organisée. Dans les sociétés contemporaines, le travail prend la forme d'une activité rémunérée, le plus souvent salariée, ce qui en fait un moyen de se procurer les biens et services nécessaires à la vie, ce qu'on appelle familièrement un gagne-pain. Mais cette activité peut permettre également à l'individu de se réaliser, non seulement en se procurant une richesse matérielle qui est supérieure à ses besoins, mais aussi en trouvant dans son activité en elle-même une satisfaction d'ordre intellectuel ou spirituel, sans oublier que celle-ci lui permet en outre de s'intégrer à la vie sociale et de trouver donc une place qui lui permet d'être reconnu par ses semblables. La philosophie s'est intéressée à la question du travail seulement au temps moderne, en raison du fait qu'elle y a pris une importance prééminente par opposition aux sociétés antiques et même encore médiévales, où le travail était relégué à un rang inférieur, celui d'une activité indigne de l'homme et réservée de ce fait aux esclaves ou aux serfs. À partir de cette définition du travail, nous poserons trois questions. Première question, les animaux travaillent-ils? Deuxième question, le travail permet-il à l'homme de s'accomplir? Et enfin, troisième question, l'artiste est-il un travailleur comme les autres? Alors, première question, les animaux travaillent-ils? Les animaux sont certes capables de fournir de grands efforts physiques et mettent en œuvre des stratégies intelligentes, quoique instinctives, pour satisfaire leurs besoins, comme on le voit par exemple avec les fourmis ou bien les abeilles, et comme le suggère notamment la célèbre fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Mais cela suffit-il pour caractériser leur activité comme un travail? En réalité, l'homme met en œuvre une réflexion consciente avant, pendant et après chacune de ses activités, du moins en principe, de sorte qu'il développe et acquiert un savoir-faire qui lui donne la maîtrise non seulement de son environnement, mais aussi de lui-même en tant que travailleur. Nous suivrons donc la thèse d'Emmanuel Kant selon laquelle l'homme est le seul animal qui travaille. Le travail peut être ainsi considéré comme un vecteur historique d'humanisation de l'homme, lequel se serait ainsi progressivement élevé au cours du temps au-dessus de sa condition animale, depuis le temps des premiers chasseurs-cueilleurs jusqu'au temps moderne et industriel, qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est là une thèse qui a été défendue par les philosophes Hegel et Marx. Donc je cite ce dernier: Ce qui distingue le plus mauvais architecte et l'abeille la plus habile, c'est que le premier a construit la cellule dans sa tête avant de la réaliser dans la cire. Voyons à présent la seconde question. Le travail permet-il à l'homme de s'accomplir? Le travail n'est pas seulement un moyen pour l'homme de subvenir à ses besoins, mais c'est aussi un moyen de s'enrichir, et ce, en un double sens, à la fois matériel et spirituel. Au sens propre, le travailleur peut se constituer un pécule en épargnant une partie de la richesse qu'il a produite, dans la mesure où le travail humain produit un surplus de richesse. Mais le travailleur s'enrichit aussi au sens figuré, puisqu'il peut développer et acquérir, en mettant en œuvre son activité, non seulement du savoir et du savoir-faire, donc une maîtrise technique, mais je dirais même du savoir-être, donc une certaine discipline de soi, c'est-à-dire s'épanouir spirituellement, moralement, humainement. Toutefois, dans la réalité, pour bon nombre de travailleurs des sociétés contemporaines, notamment les salariés peu qualifiés, le travail ne permet pas un tel enrichissement, ni d'ailleurs au sens matériel, ni au sens spirituel. Est-ce à dire que le travail ne serait au fond nullement un moyen pour l'homme de s'accomplir? Ou bien est-ce à dire que les conditions sociales d'organisation du travail ne permettent pas, à l'heure actuelle, à cette activité de jouer pleinement le rôle qui devrait être le sien? Le penseur Karl Marx défendait la seconde hypothèse dès le XIXe siècle, en estimant que l'organisation du travail dans les sociétés capitalistes contemporaines a fait de celui-ci une activité aliénée. Selon Marx, le travail en régime capitaliste produit l'effet inverse de celui qu'il devrait normalement produire. Car, par un paradoxe qui n'est qu'apparent, on peut constater aujourd'hui non seulement que l'ouvrier s'appauvrit d'autant plus qu'il produit plus de richesses, c'est une citation, mais également que, je cite également, l'ouvrier devient lui-même une marchandise. en étant contraint de vendre sa force de travail à un prix de plus en plus bas. Troisième question, l'artiste est-il un travailleur comme les autres ? Dans la mesure où il ne se soumet pas entièrement aux contraintes techniques de son art, mais où il jouit d'une certaine liberté individuelle de conception et de création, l'artiste se distingue du simple travailleur, notamment de l'artisan et, a fortiori, de l'ouvrier. Son activité semble s'apparenter alors à un loisir, c'est-à-dire une activité susceptible d'être pratiquée pour le seul plaisir qu'elle procure en elle-même. Toutefois, dans la mesure où il est contraint de satisfaire ses besoins, comme les autres membres de la société, l'artiste est conduit à se servir de son art comme d'un moyen pour produire de la richesse en vendant ses œuvres. Dès lors, l'artiste intègre la sphère économique de la production et des échanges, et il est donc soumis à ce titre aux mêmes contraintes que l'ensemble des travailleurs. Il doit satisfaire sa clientèle, il doit honorer ses commandes. De plus, la loi de l'offre et de la demande fait varier la valeur d'échange de ses œuvres sur le marché de l'art. Or, il convient ici de préciser que l'artiste, s'il réussit à se faire connaître d'un large public, pourra vendre ses œuvres à une valeur d'échange élevée, sans commune mesure avec la valeur d'usage relativement faible de celle-ci. Ceci s'explique parce que l'artiste produit un bien rare, du fait de sa singularité. Ses œuvres expriment en effet un style personnel, original et individuel. C'est ce que l'on constate notamment avec les peintres célèbres tels Pablo Picasso, lequel au sommet de sa gloire réglait ses notes de restaurant en faisant un dessin sur un coin de nappe. Pour la même raison, les photographes d'art produisent des œuvres généralement en tirage limité. Conclusion. Le travail est devenu à l'époque moderne et contemporaine une activité essentielle des hommes par laquelle ceux-ci s'emploient à satisfaire leurs besoins en transformant leur environnement naturel. Pour ce faire, ils ont recours à un savoir-faire et à des outils, donnant ainsi à leur travail une dimension technique qui joue un rôle déterminant dans le progrès historique des sociétés humaines. Toutefois, il apparaît que le travail peut être la cause d'une profonde aliénation des hommes, et ce, y compris dans les sociétés occidentales contemporaines, industrielles et capitalistes, dans lesquelles un grand nombre de travailleurs ne peuvent s'épanouir au travers de leur activité, soit parce qu'elles s'effectuent dans des conditions indignes, soit parce qu'ils sont victimes d'une destruction de leur emploi salarié.